CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, un fait divers, une loi. Vos papiers biométriques, s'il vous plaît. Un détecteur magique de terroristes. Et des gus dans un garage. L'équipe aujourd'hui, Gaël Serres, Solarus et Daskritch. Notre invité est Christopher Talib de la Quadrature du Net. J'espère que tout le monde a mis son portable sur silencieux. Alors, parce que de toute façon, on sera sur écoute. Alors, voilà, c'est parti, quoi. Bonjour, bonjour Solarus, comment vas-tu?
Ça va et toi?
Bah, très bien, l'écoute est bonne. Bonjour Gaël, comment vas-tu?
Très bien, merci.
Magnifique. Bonjour Christopher Talib qui est par Skype depuis Paris.
Bonsoir.
Donc ton écoute et ton intervention seront très soigneusement écoutées via échelon. Et bonjour, je suis Daskritch. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, à toi qu'on espère te léguer un monde plus libre, plus joyeux, plus honnête et donc plus propice aux vidéos de petits chats qui font les foufous en se chassant dans les cartons. Aujourd'hui, nous allons parler de liberté. Liberté logicielle, liberté d'usage et liberté citoyenne dans l'espace numérique. Seulement, nous avons préparé cette release avant les attentats terroristes du vendredi 13 novembre dernier. Et surtout, avant la proclamation de l'état d'urgence. Nous sommes donc en plein dans l'actualité, mais décaler le sujet serait en nier son importance pour la vie de tous, tous les jours. Dans une release précédente, nous t'avions parlé de politique. Et je t'y comptais l'histoire de l'IFF, l'Electronic Frontier Foundation, une association française à les mêmes buts, mais avec des moyens plus modestes. La Quadrature du Net compte défendre et garantir les libertés sur l'espace numérique au niveau politique. C'est ainsi qu'elle combat le troll dans son incarnation totémique, la loi Bullshit vendue emballée dans un joli papier rose avec des noms évocateurs comme « lutte contre le pédoterrorisme »,« contrôle des anarchistes nazis » ou encore « défense contre les méchants lanceurs d'alerte ultralibéraux » et mon préféré « éradication de l'évasion fiscale des RMistes fraudeurs ». Non, sur ce dernier, je déconne, on va quand même pas faire du populisme outrancier. Dernière en date, la surveillance électronique globale de la population serait la solution miracle. Pardon, vous ne le voyez pas, mais il y a des guillemets en fait. Elle permettrait de détecter les suspects. Hop, je refais des guillemets. Sauf que sur les 10 dernières années, les assassins qui ont perpétré des attentats en France étaient déjà tous fichés comme dangereux par les services de police. Le défaut de la surveillance globale, c'est qu'elle augmente considérablement le nombre de faux positifs, donc de personnes innocentes, vues comme suspectes. Elle ajoute du foin quand on cherche une aiguille dans une meule de foin. Or, ce que demandent le renseignement intérieur et les services de police sur le terrain, c'est pas plus de suspects, mais plus de moyens pour enquêter sur place, sur le terrain, pour surveiller plus précisément ceux déjà fichés. Les États-Unis consacrent un budget largement plus hollywoodien à la surveillance globale, mais ils sont toujours incapables, malheureusement, d'empêcher des attentats à la bombe, comme celui lors du marathon de Boston, ni les tueries, hélas, sinistrement régulières. Alors j'ai cherché des raisons pour moins avouables, mais nettement plus vraisemblables, pour instaurer la surveillance globale de l'ensemble des citoyens. De là, j'ai établi un classement. Or, qui dit classement dit top, et qui dit 5 dit...
Le top 5. Numéro 5.
Parce que cela peut toujours permettre d'inculper n'importe qui à n'importe quel moment. Songez à Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt, lui qui, justement, militait pour les écoutes globales constituées des dossiers judiciaires. Eh ben, le voici Marie.
Numéro 4.
Parce que c'est un marché stratégique dont il sera forcément passé à une grande entreprise privée française où on est assuré d'être embauché une fois venu l'heure de la retraite pantouflarde de hauts fonctionnaires.
Numéro 3.
Coluche disait « La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours ». Mais réduire les voix discordantes, c'est trop tentant. Suffit de dire aux petits électeurs qu'on sait ce qu'ils font à 23h la nuit venue sur le long des berges du canal.
Numéro 2.
Parce qu'on peut toujours vendre l'accès aux fichiers à une compagnie d'assurance ou à un vendeur de meubles suédois. Et même si c'est interdit, on n'a pas pris.
Numéro 1.
Parce qu'on ne sait jamais, on pourrait se retrouver à collaborer avec un autre pays européen en toute franche camaraderie. On repartirait dans l'échange de fichiers au motif Vichy comme en 40. Je vais avoir des emmerdes. Hein. Oui, pourquoi vous me faites non ? Comme la surveillance globale ne fonctionne vraiment pas, le dernier dada de nos gouvernants est de vouloir interdire le chiffrement des communications. Et tant pis si on rend possible le piratage de transactions bancaires ou de serveurs. Affligé devant les prétextes alignés depuis 10 ans, j'ai pensé à nos amis du ministère de l'Intérieur. J'ai cherché des prétextes plus honorables et sans utiliser les mots, alors c'est un ni oui ni non, hein. J'ai essayé d'éviter d'utiliser les mots nazi, terroriste ou pédophile. J'ai fait le tour et comme je suis un flemmard, j'ai fait un classement et j'ai réutilisé le même jingle.
Le top 5.
Désolé.
Numéro 5.
Il faut interdire le chiffrement parce que c'est pas ça qui va résoudre le chauffage, monsieur. Vous avez vu comment il monte ? Surtout ce mois-ci.
Numéro 4.
Il faut interdire le chiffrement parce que l'algorithme RSA n'est pas certifié norme française ni issu de Matra Thompson.
Numéro 3.
Il faut interdire le chiffrement parce que Bitcoin favorise l'évasion fiscale.
Numéro 2.
Il faut interdire le chiffrement parce que les chiffres sont arabes, ils ne sont pas issus de notre culture judéo-chrétienne.
Numéro 1.
Il faut interdire le chiffrement parce que chiffrer et déchiffrer utilise beaucoup d'énergie, c'est une menace planétaire par le réchauffement climatique. Avec la COP21, nous avons mené l'initiative de circoncire ce dangereux danger. Comment ça ? Quoi ?
On dit pas circoncire, on dit circonscrire. Circoncire, c'est un autre truc.
Ah oui, non mais c'était pour éviter de passer pour un raciste.
Justement.
Bref, les prétextes à la con pour passer une loi scandaleuse, c'est comme l'aftershave. Faut en mettre pour calmer le feu du rasoir, mais pas trop, sinon ça pue. Enfin, du futur immédiat, comme il faut beaucoup de moyens pour sauvegarder ta liberté de regarder en stream des vidéos sur internet de chatons qui font les foufous en se chassant de carton en carton, je crains bien qu'il ne faille user de ton droit de téléphoner à ton député, et plus d'une fois cette année.
Thank you.
Django Reinhardt, Brasil, forcément en référence au film. Lors des discussions sur la loi des ADVSI, il y a 10 ans, celle qui a précédé la loi Hadopi, je me souviens avoir prévenu que la protection artistique n'était qu'un prétexte pour instaurer un début de surveillance sur Internet, et c'était à l'époque le fameux projet de loi LOPSI. Et que cette loi fait sauter le verrou de la présomption d'innocence en vue de faire du moindre internaute un coupable potentiel qui s'ignore. Au même moment, un quarteron de geeks patentés dans leur garage, pardon, des gus, se sont souvenus que nous étions toujours en démocratie et qu'un citoyen a le droit de débattre et de pétitionner ses élus. Et ainsi naquit la quadrature du net. Depuis, elle n'a pas chômé, dénonçant par exemple une loi qui veut installer des portails biométriques aux portes d'embarquement dans les aéroports, ce qui fait hurler les gens qui s'y connaissent, des bidouilleurs qui vous montrent qu'avec un peu de colle, on peut complètement tromper une machine qui coûtait plusieurs millions d'euros. Oui, n'oubliez pas que le documentaire Cache Investigation sur France 2, qui a réussi ce magnifique tour de force, était allé voir le Computer Chaos Club, le fameux archennemi teuton de la surveillance globale. Alors, bien sûr que nous craignons le prochain attentat, mais finalement plus pour ce dont serait capable de sortir comme nouvelle loi l'exécutif que pour les amis que l'on pourrait perdre. Terrifiant pour une démocratie moderne, n'est-il pas ? Comme l'écrivit Libération une semaine avant les attentats, un fait divers, une loi, Nicolas Sarkozy en avait fait un principe de gouvernement. En matière antiterroriste, le gouvernement socialiste l'a suivi. La quadrature du net s'est insérée dans un tissu d'associations de bidouilleurs attachés à la démocratie, comme le CCC, l'IFF, mais aussi de plus vénérables comme Amnesty International et Reporters sans frontières. Depuis ses débuts, elle a su se structurer, parfois se professionnaliser et étendre ses activités. En face, il faut reconnaître que la dérive sécuritaire touche très largement la gauche socialiste, avec très peu de contestations en interne. Ce qui ne laisse, pour toute opposition, que quelques geeks. Alors attention, cette interview comporte du placement produit étant donné que la quadrature du net est actuellement en campagne de levée de fonds.
CPU, carré et petit utile.
Bonsoir, bonjour Christopher Talib.
Bonsoir.
Bonsoir, bonjour. Pour les gens qui vont passer à table ce jeudi midi. Première question, combien de lois ont été votées concernant le numérique en 12 mois ?
Oh, grande question. Alors, l'année passée, en novembre 2014, et triste coïncidence, le 13 novembre 2014, on votait la loi terrorisme qui instaurait la censure administrative de sites internet faisant l'apologie du terrorisme, sous-entendu le terrorisme djihadiste.
Donc ça fait une loi. Ensuite.
Première loi. Alors, ensuite, on a eu... Alors, c'est la question de surveillance, hein, je me cantonne là-dessus. Il y a eu la loi renseignement en juin 2015, qui est passée, en fait, une loi qu'on présentait, qui était prévue depuis très longtemps, mais qui est passée dans un climat post les attaques de Charlie Hebdo,
évidemment.
Qui a fait que le débat, c'est évidemment... c'est vraiment très fort polarisé sur les questions d'antiterrorisme. Et de surveillance de la nation et ce genre de choses. Et je pense que nombre de vos auditeurs et auditrices ont pu entendre parler de cette loi. Je ne vais pas revenir dessus. Ce qui est intéressant sur cette loi, c'est qu'il y a eu une censure d'une partie de cette loi par le Conseil constitutionnel, notamment les dispositions qui concernaient la surveillance internationale.
Alors c'est une censure pourquoi ? Pour des aspects techniques, il me semble, non ?
Alors, c'était pas tellement technique, mais ça ne rentrait pas vraiment dans le cadre de la loi d'écouter les conversations émanant ou venant de l'étranger, ce qui en fait rentrait pas dans le cadre de la loi et n'était pas tout à fait conforme à la Constitution. C'est donc ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel.
D'accord.
Cependant, en septembre arrive une proposition de loi. Donc, à la différence d'un projet de loi, une proposition de loi est portée par un membre de l'Assemblée quand un projet de loi est porté par un membre du gouvernement. Et qui était la proposition de loi concernant la surveillance internationale, qui remettait en fait les dispositions censurées dans une autre loi pour un peu séparer, vu que la loi renseignement au départ était un peu un fourre-tout, un peu été élaguée de cette disposition par le Conseil constitutionnel.
Et sans modifier, cette
proposition de loi est passée comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mmh. Est passée devant le Conseil constitutionnel aussi la semaine passée, qui a décrété que finalement en fait il n'y avait aucun problème. Et on a une nouvelle loi maintenant, enfin, qui ne concerne pas vraiment Internet, ou en partie peut-être, c'est la loi sur l'extension de l'état d'urgence, qui, en plus de beaucoup de dispositions qui ont beaucoup à faire au code de la sécurité intérieure, une disposition qui est redondante à la loi du 13 novembre 2014, c'est la censure administrative des sites faisant l'apologie du terrorisme, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un juge administratif, a.k.a. La police, qui le fait, mais le ministre de l'Intérieur, c'est qu'on passe d'une censure administrative à une censure politique.
Alors, je vais juste vous interrompre. Ces lois, le gouvernement les construit pour protéger le citoyen. Pourquoi, à première vue, c'est ce qu'ils disent, pourquoi pour vous, elles sont moins progressistes que synonymes d'une dérive sécuritaire ?
Alors, il faudrait analyser chaque loi séparément. Ou alors, peut-être en faire deux cas d'école, les censures administratives et les questions de surveillance généralisée, puisque ce sont deux types de lois très différentes. Bon, sur les questions de censure administrative, l'idée étant que, comme on a pu l'entendre depuis quelques jours, la propagande du groupe État islamique se fait via Internet. Donc, du coup, on va bloquer les sites Internet de propagande, donc parce que la propagande, du coup, va disparaître. Premièrement, la censure n'a jamais empêché quoi que ce soit de disparaître. Au contraire, particulièrement sur Internet, censurer un contenu lui donne une visibilité plus grande. Alors peut-être ça c'est pas tout à fait un argument, mais autre chose aussi que censurer, c'est jouer au chat à la souris. Si on veut se placer par exemple pas dans une position de défenseur des libertés, mais dans une position de police, l'objectif étant de faire que la propagande n'atteigne pas la population française. Si on doit bloquer un à un tous les sites, quand on en bloque un, il y en a un autre qui va apparaître et on tourne comme ça au chat à la souris, on s'épuise parce qu'on soigne un symptôme et on ne soigne pas du tout une maladie.
C'est ce qui se passe par exemple sur Twitter avec les comptes de djihadistes qui sont supprimés continuellement mais qui se recréent
encore.
Voilà.
Et si on se replace maintenant dans la position d'un défenseur des libertés, ce que je suis, le problème est qu'en fait, on va pénaliser tout un nombre de personnes, on va aussi pénaliser tout un nombre de choses et de manières de partager la connaissance suite à ces censures administratives. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un site est considéré comme faisant la propagande djihadiste ? Je pense que ça se comprend assez rapidement dans le cadre de l'État islamique et dans le contexte sociopolitique dans lequel on vit aujourd'hui, mais une censure administrative n'est pas vraiment une censure acceptable. Que faire, par exemple, sur des sites d'information alternative ? Les premiers blocages de sites administratifs qui ont eu lieu en février ont posé énormément de questions au sein de la presse. Est-ce que, par exemple, faire une interview d'un membre de l'État islamique, est-ce que c'est recouvert par le travail journalistique ou bien est-ce que c'est recouvert comme faisant de la propagande ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de s'intéresser à qui sont nos ennemis ? Ça aussi, c'est une question. Que faire lorsqu'un chercheur travaille sur le Moyen-Orient et donc va être amené à travailler sur l'État islamique ? Que faire quand lui veut travailler là-dessus et il va se retrouver face à des sites bloqués ? On n'est pas toujours dans une question de propagande. La propagande, ça s'étudie aussi. La propagande, c'est un message politique, en fait, finalement. Et il faut pouvoir le traiter comme tel. Sur les questions de surveillance, la loi renseignement
une petite question.
Et la proposition
Pardon.
De loi sur la surveillance
Christopher
internationale.
Allô ?
Oui.
Pardon, il y a peut-être un petit décalage. Combien il y a eu de sites interdits ou bloqués depuis l'instauration de cette loi ?
Il n'y a aucun moyen de le savoir.
D'accord, vous n'avez pas essayé de faire une remontée au fur et à mesure qu'on vous les signalait ou...
Alors, le problème, c'est qu'on a eu 2-3 signalements parce que l'affaire a été ébruitée dans la presse. Mm-hmm. Je pense à l'affaire de islamicnews.info. Mm-hmm. Je pense que c'était le Numérama qui en parlait. Mais le problème, c'est qu'on a, on n'a pas décidé de faire un suivi de ça et d'autre part parce que c'est en fait impossible. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, il n'y a aucun intérêt à... Si on se place dans la position du ministère de l'Intérieur, aucun intérêt à bloquer des sites web. Mm-hmm. C'est pour publier la liste des sites bloqués.
D'où le problème que ça soit un pouvoir administratif et non judiciaire qui...
L'autre problème étant, puisqu'on bloque des sites faisant l'apologie du terrorisme ou poussant à commettre des actes de terrorisme, et ce qui, dans la loi d'extension de l'état d'urgence, n'est pas sur des questions de terrorisme, mais portant atteinte à l'ordre public, ce qui est fondamentalement différent, la question est de savoir où se trouve la limite, et surtout, qu'est-ce qu'on veut faire ça, pourquoi on veut bloquer ce message politique.
Un petit point là, c'est quoi la différence fondamentale entre trouble à l'ordre public
quand c'est écrit dans la loi pousser à des actes de terrorisme, je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu des problèmes dans la loi contenant la définition de terrorisme. Le terrorisme est un concept politique qui a évolué au cours des 50 dernières années et qui, depuis 2001, fait référence, a d'abord fait référence au terrorisme Moudjahidin, qui était le propre d'Al-Qaïda. Et maintenant, quand on pense à un terroriste, on pense plutôt à des membres de l'État islamique.
Ces deux... Christopher, il me semble même que le mot terrorisme n'est pas défini officiellement. C'est pour ça que la BBC s'interdit de l'utiliser. Et en France, le mot terroriste était comme ça que, les, que l'autorité allemande occupante lors de la Seconde Guerre mondiale parlait des résistants.
Oui, tout à fait. C'est ce que j'étais en train de dire, c'est que le concept de terrorisme, c'est finalement, si on retourne à la racine politique de ce que c'est gouverné par la terreur. Mais il est surtout utilisé dans les cadres de ce qui a été, ce que l'histoire nous a appris sur l'usage du mot terroriste, c'est que ça a été utilisé dans des gouvernements plutôt autoritaires, plutôt fascisants, plutôt du type soviétique, etc., pour désigner un ennemi diffus. La grande différence entre ce qu'on retrouve par exemple une guerre à l'ancienne et ce qu'on se retrouve dans la situation d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on a un ennemi qui est diffus. On ne va pas à l'extérieur du pays affronter une armée ennemie. Là, on a quelque chose qui est très diffus et c'est ça qui rend les choses très compliquées. Donc, je voulais revenir sur les questions de loi de surveillance. Donc, la loi renseignement, la proposition de loi et la proposition de loi sur la surveillance internationale, qui avait pour but, d'un côté, de moderniser les techniques de renseignement de la France, ce qui était vraiment nécessaire vu que la dernière loi datait de 91. De l'autre côté, on ne peut pas augmenter le pouvoir des services de renseignement sans augmenter le contrôle démocratique de ceux-ci. On sait maintenant depuis Snowden que les technologies utilisées par les services de renseignement américains et très probablement suite aux affaires Amesis, Bull, etc., les renseignements français sont immenses. On peut tout écouter partout, tout le temps. La confiance que vous avez dans vos ordinateurs est cassée à jamais. La confiance que vous avez en le chiffrement, si vous ne faites pas vraiment très attention, ça ne sert à rien d'y faire confiance. On est dans cette situation-là. Donc on est dans cette situation où on a des humains. Donc des personnes comme vous et moi, comme même les auditeurs, sont face à des outils d'une puissance qui sont capables de regarder tout, tout le temps, n'importe où, n'importe comment. La question est de savoir comment est-ce qu'ils vont les utiliser. Ça fait plusieurs années que les défenseurs des libertés numériques, que sont l'EFF, que sont le Chaos Communication Club, que sont la Quadrature du Net, disent que la surveillance de masse a un énorme problème, c'est qu'il n'y a aucun traitement des données. Et c'est ce qui est ressorti des articles de presse qui ont analysé, des articles de presse français qui ont analysé la situation suite aux attentats du 13 novembre 2015, qu'il y a eu des problèmes dans l'analyse. On a récupéré un nombre immense de données, mais on était incapable de voir ce qu'il y avait dans ces données-là.
Donc vous dites que c'est inutile, en fait.
Non. Je pense que tomber dans le débat « c'est inefficace, c'est inutile, ça sert à rien » est une position un peu dangereuse. Puisque on peut pas, enfin ça dépend aussi de vos sensibilités politiques, mais c'est dénigrer complètement en fait le travail qui a été fait. Mais le problème, c'est que la loi sur le renseignement permettait d'intercepter, enfin des flux immenses de données suivant des algorithmes. La question est qui surveille les algorithmes et comment est-ce que ces algorithmes vont fonctionner. Si par exemple c'est un modèle de fonctionnement comme on a pu voir avec Echelon par exemple, de vous dites certains mots ou vous visitez certains sites, et si vous dites certains mots après avoir visité certains sites et ensuite d'arriver sur un programme qui vous permet de discuter avec des gens pour redire ces mêmes mots et partager ces liens sur ces sites, on peut se dire que vous avez eu un intérêt pour ce qu'il y avait sur ces sites-là. Et si ça se trouve, ce sont des sites à caractère de propagande djihadiste, et si ça se trouve, vous êtes en train de communiquer à propos de cette propagande. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous ne savez pas. Ça peut être des chercheurs, ça peut être des journalistes, comme ça peut être des gens qui préparent un attentat. C'est comme ça que fonctionne un algorithme. Un algorithme est une machine à qui on a donné des ordres. Et qui a défini ces ordres-là? Ce sont des humains. Et on ne peut pas s'extraire de la pensée humaine, et on ne peut pas s'extraire non plus du fait qu'un algorithme a des limites, surtout que le problème, comme vous l'avez dit au début de l'émission, le nombre de faux positifs qu'on va avoir va complètement brouiller, va noyer dans le flux de données tout ce qu'on a pu avoir.
Ou cette question de efficacité, manque de moyens, etc. En quoi ça pose un problème par rapport aux libertés fondamentales et aux libertés numériques?
Alors, sur les questions de liberté fondamentale, sur la loi renseignement, on s'est retrouvé à une situation où, en fait, les services d'enseignement n'étaient pas du tout, avaient un contrôle très faible, sinon inexistant, de la part du pouvoir judiciaire. En gros, la CNCIS a été remplacée, qui donc la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui a été remplacée par la CNCTR, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, n'a pas de pouvoir coercitif. Le Parlement n'a aucune vision là-dessus. Et il y a une commission parlementaire qui a été faite, une commission mixte avec des membres de l'Assemblée nationale, des membres du Sénat, un seul technicien pour pouvoir contrôler ce qui est fait. Le problème, c'est que cette CNCTR n'aura aucun contrôle coercitif, donc elle pourra pas, à partir du moment où elle dira non, ils pourront quand même y aller. La personne qui aura le dernier mot, c'est le Premier ministre. C'est une concentration énorme de pouvoir au sein du Premier ministre. Il faut bien se rendre compte, c'est le Premier ministre qui a un pouvoir d'avis sur sur ce qui va être mis en place, et donc c'est le Premier ministre qui va décider oui ou non on pourra mettre en place ces techniques de renseignement. Et le Premier ministre est le représentant du pouvoir exécutif et pas du tout du pouvoir judiciaire.
Pour que ça soit bien clair, pardon, c'est que les services de police ou de renseignement adressent des demandes d'écoute à cette instance qui approuve ou pas, et de toute façon, quelle que soit sa décision, c'est le Premier ministre qui décide en dernier lieu.
En fait, ils adressent leur demande au Premier ministre, qui, dans un cas, un doute, demande à la CNCTR ce qu'elle en pense. La CNCTR peut dire oui ou non, ou Teletubbies, ça revient au même, c'est le Premier ministre qui prend la décision de oui ou non. Et en plus, il y a des. Enfin, après, c'est peut-être. Si vous interviewez, par exemple, des gens qui sont des vrais opérationnels des services de renseignement, ils auraient un avis un peu différent sur la question de l'urgence, ce qu'ils appellent l'urgence opérationnelle, où cet avis du Premier ministre peut être contourné dans le cadre d'une urgence, mais il est prévenu dans les 24 heures.
Où on en est dans la mise en application de cette loi, Scal? Donc, elle a été validée par le Conseil constitutionnel cet été.
Je ne me trompe pas, les décrets d'application n'en sont pas encore. Non, ils sont déjà sortis. Et donc, cette loi est aujourd'hui applicable. Et encore, il y a des décrets d'application de certaines parties de loi qui ne sont pas encore tout à fait sorties.
D'accord.
Je ne sais pas. Alors, je dois vous avouer que suite aux attentats, on a été un peu noyé dans un nombre assez incalculable d'informations. Et on essaie encore cette semaine et les semaines suivantes à faire le tri dans ce qui s'est passé, où on en est, etc. Ce qu'a fait la Quadrature, en fait, c'est qu'on a décidé, sur un coup de colère, de lister en fait les atteintes qu'on nous signalait, qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux, etc., d'atteintes.
Oui, ça, c'est concernant l'extension et l'état d'urgence.
Alors, l'extension de l'état d'urgence a été votée, a été appliquée, et on est dedans. On est parti pour 3 mois. Ou plus, et très certainement plus, d'état d'urgence.
En quoi ça concerne les libertés numériques, du coup? Quelle est la conséquence?
Alors c'est assez bizarre. Ça, en fait, ça a été résumé par un sympathisant il y a quelques jours. Il disait, il y a un an, le problème le plus important pour la Quadrature du Net, c'était la neutralité du Net. Aujourd'hui, c'est la réforme constitutionnelle sous l'état d'urgence.
L'extension de vos missions, oui.
On s'est retrouvé sur des terrains qu'on ne maîtrise pas, peut-être pas nécessairement. Le problème, c'est que comme ça nous touchait en tant que défenseurs des libertés, ça touche comme d'autres associations qui travaillent sur les libertés, que ce soit l'antisexisme, l'antiracisme, etc. On s'est retrouvé sur ces questions-là parce qu'aussi il y avait des questions en fait qui touchaient à Internet. Et on s'est surtout retrouvé pris dans le flux. Il y a eu, je pense que vous avez les auditeurs et vous en avez entendu parler aussi, du pad et du wiki qu'on a fait sur les recensements des joies ou pas de l'état d'urgence.
On mettra le lien sur la page de l'émission.
Voilà. En fait, c'était fait sur un coup de colère. On s'est dit, on va lister tout ça. Et on a dit aux gens, venez nous aider à lister. On s'est retrouvé à 500 sur un pad, ce qui est à peu près immense. Et tous les jours, sur le wiki, maintenant, les gens sont en train de rajouter des citoyens vraiment concernés par ce problème-là. On sont en train de rajouter des liens. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a un nombre très large de personnes qui sont un peu choquées, outrées ou complètement indignées face à la réponse politique de ce qui se passe.
On va parler des conséquences de cette réponse politique juste après une petite pause musicale qui arrive tout de suite.
Ok.
Oups. Ah, et ben, j'ai tout perdu. On va relancer. We'll be right back. Vroncops par Mister Oiseau, extrait du film Épinomime. Je vous le conseille largement. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, c'est Carré Petit Utile, le programme consacré aujourd'hui aux libertés numériques et surveillance globale. Et nous sommes en ligne avec Christopher Talib, de chargé de campagne. Voilà, j'ai pas tout révisé à la quadrature du net. Je vous laisse.
Et donc, on disait que l'état d'urgence inquiétait beaucoup de gens en France. Oui. Et on se demandait un peu pourquoi.
Je ne sais pas s'il faut vraiment se demander pourquoi, en fait. Par exemple, la position de la quadrature du net qui a été suite aux attentats, de demander... Bon, premièrement, on a été tous particulièrement choqués. Ça s'est passé dans des quartiers dans lesquels beaucoup de gens, en fait, de la quadrature du net se trouvent, en fait, et vivent, et travaillent, etc. Il y avait ce premier côté choqué et de deuil qui était nécessaire. Après, on s'est demandé, mais quelle est finalement la seule réponse en tant qu'association qu'on peut donner ? Qu'est-ce qu'il faut dire maintenant ? Et la réponse qu'on a eue, c'est on veut une réponse parlementaire, on veut une commission transparente parlementaire, une vraie commission d'enquête sur qu'est-ce qu'on a appris suite aux attentats de janvier et qu'est-ce qu'on a appris suite à ces attentats et qu'est-ce qu'on va faire pour que ça n'arrive plus ? Parce que notre question n'est pas... quels seront les pouvoirs qui vont être renforcés, qui vont être consolidés dans un cadre réellement démocratique, quels seront les contre-contrôles qui existeront pour avoir un vrai travail de service de renseignement et pas quelque chose où on se retrouve face à ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas être dans un débat c'est inefficace, où il faut changer, où il faut plus de moyens, etc. C'est la question aussi de savoir apprendre de nos erreurs. Il faut se rendre compte qu'il y a eu un problème quelque part. Si depuis Mera, à peu près tous les attentats de l'État islamique qu'il y a eu en Europe tournent autour de la France ou de la Belgique, c'est qu'à un moment, il y a eu un problème. Il y a plein d'articles de presse qui sortent sur les analyses de fonctionnement des services de renseignement. Mais quelle est la réponse politique face à ce qui s'est passé et quelles sont les mesures qui vont être prises pour améliorer ça ?
Alors, cette mission, elle a été demandée en début d'année. Elle n'a pas été mise en œuvre. Vous l'avez redemandé là. Est-ce qu'il y a une réponse ?
Alors, en fait, elle a été demandée en 2013, mais elle a été reléguée au fond d'un tiroir pour X et Y raisons. Il n'y a eu aucune demande. On n'a pas fait cette demande en janvier. On l'a fait suite aux attentats du 13, on l'a faite.
Mais officiellement, vous avez envoyé une lettre ?
En janvier, il y a eu un autre problème qui nous a occupé, c'était la loi renseignement, en fait. Et si la réponse politique, c'est de modifier la Constitution sous l'état d'urgence, on est dans un problème grave, parce que la Constitution est quand même la base de notre République, c'est la base du pays, la base de la législation et du juridique du pays. Si on la modifie en état d'urgence, qui est un état d'exception, et le problème, c'est quand l'exception devient la règle, alors quand on entend des politiques proposer une extension de l'état d'urgence, on saute sur nos chaises, parce qu'on ne peut pas accepter ce genre de situation. Une modification de la Constitution, ça se fait calmement, avec des vrais débats parlementaires et des vrais débats dans l'espace public. Ça ne se modifie pas à la va-vite, sur le coin de la table, entre deux présentations militaires.
Une petite question de Solarus.
Pardon. J'ai pas de micro. Si, c'est bon. Donc, tu disais tout à l'heure que vous aviez glissé du combat pour la neutralité du net vers des problèmes de constitutionnalité, de liberté civile. Est-ce que, en final, en France, tu trouves pas qu'il manque un espèce d'ACLU, d'association de liberté, de défense des libertés civiles en France ? Et est-ce que c'est le rôle de la quadrature de s'y placer ?
Alors, sur le glissement, en fait, sur les questions de constitutionnalité, je crois que c'est un glissement que beaucoup d'associations qui se battaient pour la neutralité du net il y a plusieurs années ont opéré. Par exemple, je donne souvent cet exemple de Fight for the Future, qui est une association américaine qui a beaucoup travaillé sur la neutralité du net et maintenant travaille sur des questions de surveillance. En fait, on est arrivé sur des questions constitutionnelles via les questions de surveillance. Et du coup, on a opéré ce glissement puisque la neutralité du net arrive à des cours constitutionnels, à des endroits où le débat citoyen est beaucoup plus faible, mais doit continuer à exister. Et donc, on commencé à s'occuper, suite aux affaires Snowden, de questions de surveillance. La Quadrature du Net est une association de défense des droits et des libertés des citoyens dans l'espace numérique. Si il n'y a que elle à faire le front par rapport à ça, je trouve que c'est un peu problématique. De l'autre côté, la Quadrature du Net est une association qui a une flexibilité dans son travail et une organisation qui lui permet d'agir très vite et de manière très rapide, un peu redondant. Mais on l'a pu voir, en fait, dans beaucoup d'actions qu'on a pu organiser, c'est que Au partir du moment où on a pris une décision, la mise en place se fait très rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas de beaucoup d'associations qui demandent l'accord de leur comité d'administration, etc. etc.
Alors comment vous allez faire là ? Est-ce que vous allez tout tenir par, sur vos épaules ? Vous n'êtes pas non plus une très grosse équipe ?
Ah non,
une très grosse
équipe. La quadrature du net, on n'est pas des robots, on est des humains. Et en fait. Il y a des moments, on a aussi des limites à nos nerfs, à notre fatigue, des limites réellement physiques et mentales. La chose à se dire, c'est que bon, on a pris pas mal de place ces deux dernières semaines avec le wiki qu'on a pu faire sur le recensement des recensements de ce qui se passait sous l'état d'urgence. Là, on va essayer de laisser un peu de place à d'autres associations, de pouvoir prendre de la place dans l'espace public et pouvoir aussi se coordonner. Et on est dans un travail de connexion avec d'autres associations.
Lesquelles ?
Je vais pas le dire parce que c'est des choses qu'on fait en tambouille et puis je vais pas.
Tu sais pas le dire. Il faut dire c'est confidentiel.
Non, c'est pas confidentiel. Mais je veux pas mettre mal des associations avec qui on n'a pas encore contacté. D'accord. Qu'on a déjà contacté, mais qui n'ont pas encore affiché publiquement qu'elles travaillent avec nous. Je crois que c'est aussi du respect de la vie privée des associations avec lesquelles on travaille. C'est pas une question de confidentialité. À partir du moment où on travaille avec une association, c'est public. Mais c'est un problème. C'est aussi, il faut respecter. Cette vie privée là aussi. Des associations qui sont sur des questions tout à fait différentes de celles de la quadrature du net. Sur un terme qui est très à la mode, on fait de l'intersectionnalité en fait.
C'est-à-dire
que l'idée c'est que les mouvements citoyens, on va dire traditionnels, que sont les syndicats par exemple, sont positionnés dans une vision holistique de la société, dans une vision totale. C'est-à-dire qu'ils ont un avis sur c'est quoi le salaire de base, sur un avis sur Internet, un avis sur la crise des migrants, etc. etc. La quadrature du net n'a pas d'avis sur ces sujets-là. On a un avis que sur les libertés dans l'espace numérique. Il y a d'autres associations qui ont un avis sur les questions antiracistes. Il y a des associations qui ont des questions sur les questions antisexistes. Il y a des associations qui ont des avis sur les questions de salariat et d'ouvriers, mais qui se concentrent que sur ce point-là. Et ça leur permet d'avoir un réel pouvoir d'expertise, comme la quadrature du net a pu atteindre suite à ses années d'expérience, etc.
Donc vous allez apporter vos compétences aux autres organisations.
Voilà, parce que je ne pense pas qu'on soit compétent sur tout un tas de questions. Et c'est important de pouvoir connaître ses limites aussi et pouvoir travailler avec les autres.
C'est une coopération franco-française ou il y a aussi des collaborations, des contacts pris avec des associations aux États-Unis peut-être ?
Il faut dire que les choses sont allées très vite. Alors on a des contacts avec les États-Unis, l'Europe, etc. sur les questions de liberté, particulièrement sur Internet. On a des contacts avec l'EFF, etc. Netzfreiheit en Allemagne. Netzfreiheit c'est en Autriche, pardon. C'est Netzpolitik en Allemagne. On a des contacts avec ces associations-là. La question, c'est que là, toutes les choses sont allées très vite. On a été dans des moments très émotifs ces dernières semaines. Donc, on va permettre comme on est parti pour 3 mois, de toute façon, ou plus, on va un peu prendre notre temps et prendre le temps de discuter aussi, prendre le temps de réfléchir et pas agir dans la précipitation ni agir dans des situations dans lesquelles on maîtrise plus ce qu'on fait.
Comment est la situation de la France de ce point de vue-là comparée aux autres pays du monde ?
Alors,
d'Occident, d'Europe peut-être déjà.
Je peux vous parler un peu de la Belgique et des Royaumes-Unis. De manière générale, en fait, on est depuis quelques années, on est dans une sorte de déstabilisation de la politique de ces pays. En fait, d'un côté, on a des mouvements citoyens qui sont très portés sur les libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et puis, on a des retours de classes politiques qui sont, alors là je vous donne plus mon avis que celui de la quadrature puisque on travaille pas sur ces questions là mais des positions de classes politiques qui sont plus sur le retour à des valeurs idéalisées du passé. Donc par exemple, mais très clairement sur les questions de surveillance du net, il y a un retour de bâton suite aux révélations de Snowden. On a des discours anti-Snowden qui sont très violents, qui disent que c'est un traître à sa patrie, qu'il a mis en danger énormément de personnes, qu'il a mis en danger des pays entiers, des populations entières en révélant ce genre de choses. De l'autre côté, c'est qu'à la liberté civile, il a pu... Pardon ?
Non, il y a une petite coupure.
On a eu une interruption.
Une petite coupure ?
Oui, ça l'année, ça.
Il a pu mettre en lumière un nombre assez immense de... d'atteinte aux droits fondamentaux des citoyens, que ce soit aux États-Unis ou en Europe.
Et dans tout le tableau qu'on vient de brosser, les gouvernants ont toujours enfin, ils font peur, quoi. Est-ce qu'il y a quand même des institutions politiques dans lesquelles on peut avoir quelques, dans lesquelles on peut croire, qui peuvent être porteuses d'espoir, je pense, peut-être à l'Union européenne ou à des cours de justice, ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a des...
Pour le moment, la Quadrature du Net, il faut savoir, c'est une association profondément légaliste. On croit en la séparation des pouvoirs, on croit en l'équilibre des pouvoirs, pour le moment, on peut dire que la Cour de justice de l'Union européenne rend des avis qui sont intéressants. On a prévu de porter la loi renseignement soit à la Cour de justice de l'Union européenne, soit à la Cour européenne des droits de l'homme. On n'a pas encore décidé laquelle. Mais ça va être fait, mais c'est des procédures très longues. Mmh. Le problème, c'est que sur de telles procédures, on est parti pour 2, 3, 4, 5 ans, et pas sur... on n'aura pas un avis dans 6 mois. Et le problème, c'est que les choses continuent à avancer pendant ce temps-là. Mmh. Et de l'autre côté, le problème, c'est qu'à partir du moment où la Cour de justice de l'Union européenne a donné un avis, c'est aux juridictions nationales de prendre acte et de mettre en place cet avis, ou pas. Mmh. Donc on l'a pu voir sur la question de rétention des données personnelles. Beaucoup, une grande majorité de pays européens ont réformé leurs droits pour être en accord avec la décision de la Cour de justice européenne, de Cour de justice de l'Union européenne, mais ça n'a pas été le cas de la France. Qui a décidé de ne pas prendre acte de cette décision. Donc
là, c'est quoi, c'est aux citoyens de se bouger.
Je crois que d'un côté, il faut pouvoir se fédérer avec d'autres associations européennes sur ces questions-là, et de l'autre côté, pouvoir développer un tissu associatif très très grassroots, très proche des gens, pour que les questions des libertés soient présentes. Aujourd'hui, on peut plus dire que on a une loi numérique sur l'année, mais non, le numérique est présent dans toutes les lois. Mmh. Numérique est présent dans chacun des aspects de nos vies, et on peut pas continuer avec des citoyens qui n'ont pas conscience de ça, qui considèrent que le numérique c'est une chose de geek, d'informaticien, de technicien, et pas quelque chose qui appartient à tout le monde.
Faut que les gens se saisissent de la problématique et
voilà. Demandent des comptes. On n'atteindra jamais rien si les associations font le travail pour les citoyens. Les associations sont là parce que elles ont des fois des moyens qui permettent des gens de travailler sur ces sujets-là, de pouvoir faire des ateliers, faire des conférences, faire des interviews radio, etc., ou télé. Mais un vrai problème ne sera jamais résolu si vraiment les citoyens ne prennent pas en main l'outil.
Et justement, vous parlez de moyens. Je crois que la Quadrature lance une campagne de dons ou...
À lancer.
C'est un peu le moment à lancer, donc c'est un peu le moment d'en parler à nos éditeurs.
On est financé pour garantir l'indépendance, notre indépendance. On est financé majoritairement par les dons des citoyens. On a une ou deux fondations qui nous donnent un peu d'argent, mais c'est minoritaire. Mmh. Et cette année, cette campagne de dons s'est plutôt bien passée. Je pense que certains d'entre vous se soutiennent de l'année passée où on a dû appeler écoutez, si on n'a pas d'argent, on va mourir. Et on a eu un retour extrêmement positif des gens des citoyens qui ont permis de qu'on continue encore cette année. Et on a pu voir que c'était assez essentiel que sur les questions de liberté numérique, on est malheureusement pour le moment les seuls en France. J'attends l'avènement d'autres associations qui pourront se saisir de ces sujets-là. Cette année, ça s'est mieux passé. On est presque au bout, en fait. Donc, je vous dirais que là, c'est vraiment la dernière ligne droite.
Il vous manque combien ?
D'appeler vos potes et vous dire, alors, ceux qui n'ont pas donné, donnez maintenant. On est vraiment au bout. On aimerait pouvoir payer une personne en plus l'année prochaine pour
développer les activités.
Face à la charge du travail. Mais on est vraiment à la dernière ligne droite. Grand-chose.
Ok. Bon, mais j'imagine que toutes les informations sont sur le site. On mettra un lien sur le site de notre émission. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de discuter avec nous.
Bonne soirée.
Et puis, à très bientôt et bon courage dans votre combat.
Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.
La Libertà, Ennio Morricone. Vous écoutez CPU, carré petit utile. Des fois, on fait des trucs et des fois, on vient les raconter au micro. C'est la partie feedback avec Solaris.
Un jeudi, je reçois un email dans ma boîte aux lettres. Madame la secrétaire d'État au numérique, Axelle Lemaire, vous invite ce lundi à une réunion concernant vos contributions sur le projet de loi numérique. En effet, deux semaines auparavant, j'avais participé à la contribution officielle sur la plateforme République Numérique. Pour tester la plateforme et ses limites, j'avais proposé un article demandant l'amendement de la loi renseignement pour ajouter un juge judiciaire.
Cette couille, toi.
J'avais également amendé l'article 8 sur le domaine commun informationnel, une tentative de formaliser le domaine public à travers cette loi numérique. Vendredi, donc, j'apporte une réponse positive à l'invitation, en précisant mon vrai nom, me doutant que mon pseudonyme, pourtant utilisé sur la plateforme, ne suffirait pas. Le laps de temps étant plus que court, je prends 80€ de ma poche pour m'acheter un billet de train Toulouse-Paris, aller-retour, et j'appelle ma grand-mère en Ile-de-France pour lui demander de loger chez elle. Vous l'aurez compris, pour le pauvre provincial que je suis, cette réunion s'est faite à mes frais. Lundi matin, je prends le RER sans encombre, puis le métro 14, nullement impressionné par ce métro automatique, car à Toulouse, tous les métros sont automatiques. Descendu station Bercy, je me présente à l'entrée du ministère de l'économie. Passage devant les douaniers, leur scanner à rayon X et leur portail magnétique, pour un peu je me serais cru garé à l'aéroport Charles de Gaulle. Une foule se presse devant les guichets, invoquant l'argument « Oui, bonjour, je travaille ici, mais j'ai pas encore de badge ». Arrive mon tour, j'indique avoir rendez-vous avec la secrétaire d'État et présente une pièce d'identité. Brillante idée d'avoir donné mon vrai nom, car je n'avais pas de pièce d'identité au nom de Solaris.
Le pseudonyme.
Je puis ainsi rentrer dans le bâtiment, traverser la cour pour arriver à l'hôtel des ministres. Entré dans le bâtiment, on m'indique un ascenseur que j'emprunte pour être accueilli au quatrième étage par une secrétaire qui m'indique que la réunion aura du retard et je peux m'asseoir sur le côté. Arrive alors un majordome, tiré à quatre épingles, qui me propose une boisson chaude. Passé l'effarement de rencontrer pour la première fois un majordome, je lui demande poliment un café. Arrivent trois autres personnes, un libriste lyonnais, un chargeur en philosophie du droit et un représentant du consortium Couperin, une entité chargée de négocier les achats de publications scientifiques pour les universités. L'heure de la réunion vient enfin et nous sommes présentés à deux personnes, le directeur de cabinet du secrétariat d'État au numérique et le conseiller au numérique du Premier ministre. Nous nous installons dans la salle, nous présentons respectivement et arrive Madame la ministre. Oui, on dit Madame la ministre pour une secrétaire d'État. Maintenant, je le sais, et vous aussi.
T'as gaffé.
Bah, je savais pas.
D'accord.
Commence alors la discussion sur les propositions de chacun. Les dispositions les plus consensuelles sont étudiées, comme la défense de l'open access des publications scientifiques et les délais et la révision des délais d'embargo sur les publications scientifiques, proposition défendue par le consortium Couperin, où l'on sent viser en première ligne les éditeurs scientifiques américains comme Elsevier. Le ton y est franc, j'y perçois peu de langue de bois. ce qu'on pourrait attendre de personnes nommées à de tels postes. Vient ensuite la discussion sur le logiciel libre dans les administrations. Le camp ministériel, pour lui donner un nom, semble emballé par l'idée, mais tient à apporter quelques nuances. En effet, si le passage au libre permettra en théorie d'économiser des licences, ce budget devra être réorienté vers de la formation. Il argumentera également sur la promotion de l'auto. Il argumentera également la promotion de l'auto-hébergement rendu à l'heure actuelle difficile par certains FAI. Vient le tour de mes propositions. Mon pseudonyme avait été automatiquement remplacé par mon nom de naissance. Visiblement, même au secrétariat d'État au numérique, on a du mal avec les pseudonymes. Ma première proposition, un amendement à la loi renseignement, est vite écarté. La franchise reste de mise, mais une pointe de langue de bois se fait entendre quand vient l'argument suivant. Cette loi est le plus large consensus jamais vu au Parlement. Députés de gauche comme de droite ont voté cette loi. Un peu abasourdi par cette réponse, j'oublie de répondre que cela n'a pas dû être très compliqué de faire voter les députés de droite, mais qu'à gauche, les pressions du Premier ministre et les consignes de vote ne sont pas étrangères à ce résultat. Nous passons alors au fameux article 8, où l'on m'explique que la définition de domaine commun que je contestais a un but précis, ne pas mélanger avec le domaine public, qui lui est la propriété de l'État. Car en effet, le domaine commun appartient à tout le monde, et donc à personne, pas même à l'État. Je concède sur ce point, et je sors de cet échange en ayant un peu plus appris sur le sujet. Vient une discussion sur le NIR statistique, un dérivé du numéro de sécurité sociale à destination des chercheurs. Je m'immisce dans la discussion, pour éclaircir un point technique sur les hachages et la complexité mathématique d'identifiant anonyme. Sachant qu'un identifiant anonyme, c'est un peu un oxymore. Puisque qui dit identifiant dit unique. Le temps passe, et la ministre a un agenda de ministre. Elle doit nous quitter pour se diriger vers un autre événement. Les conseillers se chargent de terminer la réunion, et me voilà parti. Je dis à l'un d'eux que j'aimerais qu'une seule virgule citoyenne se retrouve dans la loi votée. Lui, plus optimiste, me dit que des propositions entières passeront le filtre du Parlement, et nous nous quittons en nous disant que l'avenir nous le dira.
Et finalement ? Ça a duré combien de temps, cette entrevue ?
Ça a duré un peu plus d'une heure, sachant que...
Six, c'est ça ?
Non, un peu plus d'une heure. À six, ouais, c'est ça, à six personnes. Sept personnes, quatre contributeurs et trois membres du gouvernement. Et voilà, ça a été assez franc. Je m'attendais à plus de discours calibrés, plus de langue de bois. Ouais, mais
et tu sais quand passera la loi ?
Et bah, du coup, ça a été un peu bousculé par l'actualité, mais...
Mais Microsoft a signé un accord de partenariat avec l'éducation nationale ce matin, puisqu'on enregistre mardi, voilà.
Bizarrement, ouais, les dispositions relatives au logiciel libre ont été un peu éludées, et Microsoft continue de...
Faire pression.
De signer des accords avec des ministères ou des...
Aux esprits.
Ou des administrations. Et donc voilà, il y a des pressions. Notamment, je parlais de l'article 8, l'article 8 sur le domaine... commun informationnel a été totalement supprimé avant même sa présentation au Parlement. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a des lobbies qui sont intervenus, qui ont dit on veut faire supprimer cet article, ne l'envoyez même pas au Parlement. Alors qu'ils pourraient faire pression sur les députés pour les débats en séance ou en commission des lois. Voilà, il y a vraiment... On se rend compte que les citoyens remplissent à la petite cuillère et que les lobbies vident à coups de seau entier, quoi. Donc c'est très intéressant et ça a permis de constater un peu cette dissymétrie dans le débat citoyen. Ouais.
Et c'est bientôt la fin de ce bulletin d'information. Donc on passe à la météo qui est donc écrite par le service prévisiologique Marc Oulagnier. Et faute de voix féminine, c'est moi encore qui vais me le taper.
La météo d'Internet.
Toutes les températures de ce bulletin sont relevées sous abri anti-atomique et le signe du cabinet noir. Vie sociale, les personnes nées sous le signe d'Amésis, placées sous l'influence d'Eagle, peuvent s'attendre à un épluchage de courrier par Kadhafi Online Services. Les missives amoureuses peuvent entraîner des précipitations de bastonnades. Amour, il sera très difficile de distinguer les signes du zodiaque et les indicateurs du cosmos lors de la consultation de réseaux sociaux. Les natifs basanés, pas très catholiques, écolo-altermondialistes, doivent franchir quelques French échelons pour être à l'abri d'une brusque montée de descente de police. Si vous habitez Vincennes et que vos voisins sont irlandais, vous risquez d'être proutot surpris par des éclats nocturnes. Voyage. Les Portugaises ensablées ascendant Thalès peuvent ressentir dès à présent l'effet des sondes négatives dégagées par le secteur R622 et sur l'ensemble des opérateurs et FAI. L'école 8200, en provenance d'Israël, est répandue sur la majorité de l'Hexagone, sème un vent très nice à l'écoute de tout un chacun, particulièrement sur SSL TLS. Pour l'instant, que vous préfériez la couleur orange ou que vous viviez en freestyle, vous ne serez jamais mouillé avec IPsec. Internet, malgré les Lopsi, Adopi, Malampi et autres coups de froid passant le 49.3, il n'est toujours pas possible aux fournisseurs d'accès de stocker tout le trafic SMTP. Pas fiable mais discret, le vieux barbon du mail à papa. Allô A, les députés égarés qui ont cru voir la vérité dans les écoutes téléphoniques et la surveillance des dangereux cyber-pédophilo-terroristes poseurs de loups solitaires devront réciter chaque matin le mantra « Messi, ici aussi, l'IMSI me suit comme le Messi ». Si vous devez voyager, n'oubliez surtout pas de goûter aux spécialités locales recommandées par Reporters sans frontières et approuvées par les dictatures du monde entier. Gamma vous lave plus blanc en Grande-Bretagne, aimez le son du Trovicor au fond des bois allemands, taillez-vous un blue coat sans vous prendre une veste aux USA, applaudissez la Hacking Team Transalpine.
Je vais avoir des emmerdes.
C'était CPU, le programme carré petit utile sur Radio Éphémère. Pour cette release, l'équipe était composée de Solarus, Chief Kafka Officer, Gael Serez, Chief Huxley Officer et Daskrit, Chief Orwell Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de Booster FM et de Radio FMR. L'intégralité du programme, des extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager, la licence en est libre. Prochaine release, plongée dans l'ingénierie d'Internet. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous cédons le micro à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Eh, t'as vu, Monique ? On te sert des auditeurs, ils sont franchement hyper attentifs, ils prennent des notes, mais le problème, c'est qu'après, c'est eux qui posent les interros.